Dans Genèse 19, on continue avec le thème du mois sur la miséricorde de Dieu. Et j'aime aller dans des histoires. Quand je dis le terme histoire, on pourrait dire récit, là. C'est pas parce que c'est une fable, c'est des choses vraies. Mais j'aime aller dans des vérités qui sont incarnées dans le quotidien, dans la vie des gens. Ici, par exemple, c'est un événement connu, mais tragique. Sodome et Gomorre. Et on va voir la délivrance de Lot au milieu de ça. On commence au verset 15. Donc, Genèse 19, verset 15. « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Oh que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas cette ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. » Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tous les territoires de la plaine et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. On va prier. Seigneur, combien on te remercie que ta parole est la vérité, que tout ce qui est dedans, si tu le dis toi-même, c'est pour notre instruction et par la consolation et l'espérance que donnent les Écritures, que vraiment nous soyons consolés. Et merci, Seigneur, que dans des temps comme on vit, on a tellement besoin, Seigneur, de toi, on a besoin de ta parole, tes promesses, mais aussi de voir comment tu es. Tu te révèles à travers ce passage, Seigneur. Tu te révèles comme le juste juge, mais aussi celui qui est plein de miséricorde, en même temps. Alors, ouvre nos yeux, Seigneur, sur ce passage, ouvre nos cœurs, à ta voix, à ce que tu veux, Seigneur, nous dire ce matin. Merci que tu es personnel, que tu connais chacun ici et que tu sais comment t'adresser à chacun de nous. Ô Saint-Esprit, que tu puisses avoir la liberté de faire ce que tu veux faire au milieu de nous. Et Seigneur, qu'on soit docile, qu'on ajoute foi à ce qu'on entend. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. C'est un passage bien connu, passage sur le jugement de Sodome et Gomorre, c'est connu pour ça. Le verdict que Dieu a donné sur cette ville d'impies qui était connue pour leur péché. Mais c'est plus que ça. N'est-ce pas significatif que dans le même lieu, au même moment où est-ce que le jugement de Dieu tombait, il opère en même temps une délivrance? une délivrance de Lot et de sa famille, et ça fait ressortir la grandeur de la miséricorde de Dieu. C'est le titre du message ce matin, et ça vient du verset 19. « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. » Et Dieu aime faire ça, il aime mettre la grandeur de sa miséricorde sur la toile de le fond de la méchanceté humaine. Et ça fait ressortir sa miséricorde. Savez-vous que dans les temps comme en ce moment, c'est exactement... Hier, ça l'a même sorti dans le temps de prière. Où est-ce que on voit... Mes amis, on est dans des temps difficiles. Le jugement de Dieu, ça fait longtemps qu'il... Dans le sens de Romains 1 qui tombe, que les gens sont laissés à leur folie, on voit l'autodestruction de nos sociétés. Mais là, le jugement apocalyptique de Dieu est tellement proche, on sait, les événements de la tribulation et tout ça sont à nos portes, on ne sait pas quand, mais on attend l'enlèvement de l'Église à n'importe quel moment. Mais en même temps, Dieu fait une œuvre de délivrance. Sur cette toile de fond-là, on voit des vies transformées, on voit des gens qui s'accrochent à Dieu, on voit aussi des gens à qui on peut partager l'Évangile dans le cœur duquel Dieu travaille. Donc on voit dans toute cette méchanceté encore là la miséricorde de Dieu. C'est ce qui arrive en ce moment, c'est ce qui arrivait à l'époque ici avec les événements entourant le jugement de Sodome et Gomorrhe. Et savez-vous ça ici, c'est juste une pâle comparaison avec l'ultime démonstration de ce que je vous parle, avec la croix. La croix, c'est la grandeur de la miséricorde de Dieu qui est montrée sur le fond de toute la méchanceté, le péché, la dépravité humaine. C'est la croix qu'il révèle le plus. Mais ici, on en a un... je pense à foreshadow, c'est pas très français. Un avant-goût. On en a un avant-goût avec le passage qu'on a sous les yeux. Je ne sais pas si vous saviez, mais le verset 19, où est-ce qu'on a le mot « miséricorde », en fait, ça parle de la grande miséricorde de Dieu, mais c'est la première mention du mot « miséricorde » dans la Bible. Okay? Ceux qui sont étudiants de la Bible, qui connaissent les principes bibliques pour l'interprétation, quand on a une première mention, c'est significatif. La première fois qu'un mot est mentionné, comme justement le mot « miséricorde », le mot « sacrifice », des mots comme ça, c'est important de comprendre pourquoi ils sont là, c'est quoi le contexte et tout ça, parce que ça crée un précédent, ou si vous voulez, ça donne le ton. La première mention va nous donner l'enseignement pour ce qui vient plus tard. On part, on va se référer à cette première mention-là pour interpréter les autres fois où est-ce que ce mot-là se retrouve dans la Bible. Si vous voulez, ça devient notre point de référence. C'est ça l'idée de la première mention. Ici, la première mention du mot miséricorde. Et donc, la question à se poser face à cette première mention du mot miséricorde ici, c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier à la miséricorde ici qui est démontrée? Ou qu'est-ce qu'on retrouve dans cette référence ici qu'on retrouve dans les autres références bibliques? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme point de référence ici qu'on va retrouver dans toutes les autres références bibliques à la miséricorde? Bon, la réponse, ça va être dans le message, là, mais... Juste pour s'introduire à ça, je veux simplement souligner ici que Lot est l'illustration parfaite de la grandeur de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il en est le candidat parfait. Lot, là, c'est le type du chrétien, j'ai dit chrétien parce que je vais lire la référence tantôt, mais la Bible nous dit qu'il est un juste. Mais c'est le type du chrétien qui fait des choix par la chair, un style de vie par la chair, même une pensée charnelle bien souvent. Mais le Seigneur le visite et le délivre dans sa grande miséricorde. Est-ce que Lot le méritait? Absolument pas. Sa famille, pas plus. Mais c'est justement ça toute l'idée. C'est la miséricorde de Dieu qui le sort de sa condition misérable. Ça, c'est un point important. La miséricorde, c'est délivrer, sauver quelqu'un de sa condition misérable. Quand Dieu exerce sa miséricorde, c'est ça qu'il fait. Là, on a l'image parfaite. Il était dans une condition misérable parmi les païens, incrédules, méchants, pervers, puis Dieu littéralement l'a sorti de là. C'est ça la miséricorde. C'est une image de c'est quoi la miséricorde, OK? Bon. En plus, on pourrait dire la définition est vraiment la plus biblique, mais même de par l'étymologie du mot, vous savez que miséricorde, ça vient de deux mots. On a une langue latine et ça vient de misericardia, la misère dans le cœur. L'idée, c'est je ressens ta misère dans mon cœur. Et ça aussi, on voit ça ici. On voit Dieu qui ressentait la misère de son enfant, qui avait fait des mauvais choix, qui était vraiment, il y avait bien de la misère à bien des niveaux, là. Mais la Bible nous dit que Lot tourmentait journellement, à tous les jours, son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ça, c'est le récit inspiré dans 2 Pierre 2:8 de ce que Lot ressentait dans son cœur. Mais Dieu aussi voyait ça. Il ressentait la misère de son enfant, de Lot, avec tous les mauvais choix qu'il a fait dans la situation dans laquelle il était à Sodome et Gomorre. Et vous savez, il n'y a aucun bonheur pour le juste dans ce monde déchu. Et ça, qu'il soit rendu là par des mauvais choix ou par ce que Dieu a permis dans sa vie, lui, c'était par des mauvais choix. Savez-vous que pour un juste, là, il n'y a aucun bonheur, aucun accomplissement au banc des moqueurs, dans la voie des pécheurs ou en suivant le conseil des méchants. Aucun. Et c'est ce qui arrivait à notre Lot ici. C'est pour ça que la grandeur de la miséricorde de Dieu est tellement importante dans nos vies, pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'on a tous la tendance à se mettre dans le trouble comme Lot. OK, Lot, c'est pas mal évident, là, c'est comme, bouh, c'est gros, là. Mais nous autres, de différentes façons, puis tout ça, par défaut, on retombe dans les différentes propensions, les différentes tendances de notre nature pécheresse. N'est-ce pas? Ça revient au galop. Quand on essaie de le chasser, puis si on essaie de le chasser par la chair, c'est encore pire. C'est juste l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de vie, qui peut nous affranchir de ces tendances pécheresses, de la loi du péché et de la mort dans nos vies. Mais gloire à Dieu pour son cœur de miséricorde qui ressent. On n'a pas un souverain sacrificateur qui est indifférent, mais il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais pécher. Et lui, il est compatissant. Il ressent notre misère et même il soupire. Vous savez, on soupire, ça me dit dans Romains 8. Lui aussi soupire. Puis même des fois, on ne sait même plus comment prier, on ne sait même plus comment communiquer ça à Dieu, nos besoins puis tout ça. Mais lui-même, dans cette faiblesse-là, il soupire pour nous par des soupirs inexprimables. Puis il intercède comme ça pour nous en présence de Dieu. Mes amis, ça, c'est de la miséricorde. C'est Dieu qui nous rejoint là, dans notre situation misérable, puis qui nous délivre. On a l'image de ici. Vous savez, j'aime l'Ancien. Je parlais des histoires, les récits de l'Ancien Testament. C'est des images. J'entendais, c'était un pasteur qui est en Israël. Un pasteur, il est chrétien, qui est d'origine juive, puis il prêche une église messianique. Et il disait ça, il dit, le Nouveau Testament, c'est comme un peu un livre à colorier. C'est plein d'images, c'est des leçons d'objets, c'est comme si Dieu, à travers ces histoires-là vécues, tu sais, il nous communique ses vérités. C'est pas juste ça, parce que bon, il y a les psaumes, il y a beaucoup, il y a de la doctrine dans l'Ancien Testament, puis tu sais, je veux pas être méprisant envers l'Ancien Testament, mais vraiment l'idée, c'est que Dieu communique beaucoup, se révèle beaucoup lui-même à travers des images, des histoires qui deviennent une image comme dans la vie de Joseph, comment hein, Dieu transforme le mal en bien, puis tout ça, Dieu se révèle comme ça. Bien ici, c'est particulièrement vrai pour sa miséricorde ici, dans ce récit que nous avons sous les yeux ce matin. Donc, assez dit pour l'instant, plongeons dans notre texte avec 3 caractéristiques fondamentales de la grandeur de la miséricorde de Dieu. D'abord, au verset 15, on voit que la miséricorde est une initiative divine. La miséricorde est une initiative divine. Ça dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » C'était pas l'idée de Lot. Je sais pas si... Probablement que c'était son désir, mais... On voit que c'est l'initiative divine d'exercer sa miséricorde. Savez-vous, c'est toujours le cas. Pourquoi on aime Dieu? Parce qu'il nous a aimés le premier. Ou lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La miséricorde, c'est toujours l'initiative divine. Dieu est toujours premier quand c'est le temps d'exercer la miséricorde. On en a une illustration ici. On a d'autres, beaucoup dans la Bible. Je vais prendre 4 femmes que vous connaissez bien dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Rahab, la prostituée, dans le livre de Josué, était dans une situation misérable au niveau physique. La ville dans laquelle elle habitait était sur le bord d'être jugée, d'être détruite. Et sa situation spirituelle n'était pas mieux. Étant prostituée, elle vivait une vie de rejet, une vie d'être ostracisée par la société, évidemment aussi une vie de péché sous le jugement de Dieu. Ah, mais la suite des choses est une merveilleuse démonstration de la miséricorde de Dieu qui l'a délivré, cette femme. Et même plus que ça, il en a même fait une des femmes qui est dans la lignée de Jésus-Christ, la lignée du Messie. Ruth, une autre païenne, qui a été délivrée glorieusement de sa situation misérable, mais elle, c'était de par le fait qu'elle arrive dans une société étant païenne, elle s'en va vers les Juifs, et là, elle était ostracisée, hein, elle était mise elle aussi au banc de la société, elle était aussi dans une situation très vulnérable, étant veuve, avec une belle-mère veuve. Tu sais, tu ne peux pas avoir plus vulnérable que Ruth et Naomi, là. Naomi puis Ruth, en tout cas. Ruth et sa belle-mère. Mais vous savez quoi? Elle aussi, elle a trouvé la miséricorde de Dieu. Elle est elle aussi dans la lignée du Messie. Elle a embrassé la foi d'Abraham, la foi en l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Alliance. La femme d'Osée, le livre d'Osée, le prophète, elle a été sortie, rachetée d'une vie de prostitution, de honte, pour avoir des enfants de façon légitime et ou figurative aussi, avec Osée, mais pour retourner ensuite dans son ancienne vie. Mais l'Éternel, comme avec Israël, parce que c'est toute la leçon du livre, c'est ce que Dieu, enfin, il veut illustrer, c'est une leçon d'objet aussi, il veut illustrer la relation entre lui et Israël à travers la relation entre Osée et sa femme. Donc deux fois, elle trouve comme ça miséricorde et Dieu la ramène et lui donne un avenir. On va parler plus, en fait, l'autre d'après. Le message au complet va être livré au message du livre d'Osée par rapport à la miséricorde. C'est un message fort dans Osée, la miséricorde de Dieu. La femme samaritaine dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, hein, que Jésus-Christ interpelle. Il l'appelle, il la sauve, il la restaure de sa vie, elle aussi, de honte, elle aussi, d'être mise de côté par tout le monde, mais au point que Jésus intervient dans sa vie, au point qu'elle devient un instrument dans les mains rédemptrices de Dieu pour que la ville, quasiment au complet, soit sauvée de par son témoignage. Et vraiment, ça, moi, je vois là-dedans un triomphe de la miséricorde de Dieu. Il n'a pas sorti à peu près de sa condition misérable. Remarquez, pour les quatre femmes que je viens ici, que je viens de vous donner l'exemple, c'est Dieu qui a été l'initiateur. Dans les quatre cas, en envoyant les espions dans le livre de Juifs, ils envoyaient où? Dans la maison de Rêve. C'était l'idée de qui? Hein, c'est qui a tout dirigé ça? C'est Dieu. Puis il a disposé son cœur, parce que quand elle lui parle, elle dit « La terreur de l'Éternel a saisi tout le pays. » Puis on voit qu'elle aussi est saisie par ça. Donc on voit vraiment la miséricorde de Dieu, non seulement dans ses circonstances, mais dans son cœur. Dieu qui faisait une œuvre dans son cœur. Avec Ruth, il a envoyé la famine. Ça faisait partie de son plan de miséricorde, parce qu'après ça, il a visité son peuple en lui donnant du pain, Bethléem, toute la symbolique de Bethléem, là-bas dans Ruth 2. Et par la suite, il l'a fait tomber, comme par hasard, hein? On sait que Dieu, il n'y a pas d'hasard avec lui, mais il est tombé sur le champ de Boaz, qui est de la lignée messianique, et là, elle s'est mariée avec lui et tout ça. Donc, encore là, la miséricorde de Dieu. Et c'est encore plus évident avec la femme d'Osée, parce que c'est Dieu qui dit directement au prophète, « Va vers elle, cette femme prostituée, et marie-la. » Et vraiment, on voit, c'est la miséricorde de Dieu qui fait tout ça. Et dans la vie de cette femme, mais aussi, on voit la miséricorde de Dieu envers son peuple Israël. Et que dire de Jésus-Christ, qui non seulement a initié la conversation avec cette femme, ce qui se faisait pas, OK? Mais en plus, il a brisé bien d'autres tabous, puis de barrières culturelles. En parlant à une samaritaine, puis tatati, puis tatata, puis avec son style de vie, puis tout ça. Il se couvrait de honte pour couvrir sa honte. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est ça que Jésus faisait avec la femme samaritaine. Puis là, j'ai parlé de femmes, les gars, soyez pas jaloux, j'ai des exemples de gars, OK? Le même principe est tout aussi vrai dans la vie, par exemple, de Jonas. Hein? Jonas n'a pas juste fait miséricorde à Ninive en passant, il a fait miséricorde à Jonas, qui était endurci, qui était bien patriote, mais qui avait besoin d'humain, son corps était dur, puis tout ça. Puis quand Dieu a dit d'aller d'un bord, il est parti de l'autre, mais Dieu l'a délivré de lui-même. Et que dire de Pierre, de Paul, de Nicodème, qui ont tous été délivrés par l'initiative divine et une fois même avec bien de la lutte, là. Tu sais, Paul était très zélé religieusement, mais Dieu l'a arrêté. Puis quand il l'a arrêté sur le chemin de Damas, c'était dans sa miséricorde. Pierre, qui était dur de comprenure, comme on dit au Québec, hein, fallu qu'il apprenne de la manière dure, lui qui était si confiant en lui-même, Dieu, dans sa miséricorde, l'a délivré lui-même, puis a fait de lui le Pierre qu'on voit dans le livre des Actes. C'est la miséricorde de Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui l'a délivré. C'est la bonté de Dieu qui a fait ça. Nicodème, hein, est un homme de l'establishment politique et religieux d'Israël. Dieu l'a sorti des griffes de ce joug religieux. Même chose avec l'homme aveugle. Vous savez, vous relirez Jean 9. Le bout le plus glorieux, c'est quand à la fin, vous savez, il y a trois reprises, ils vont le voir. Hey, c'est qui lui? C'est qui t'a fait ça, qui t'a délivré ça? La dernière entretien, c'est même humoristique. Parce que là, il dit, je vous l'ai déjà dit, puis je vous le réexplique encore. Voulez-vous devenir son disciple? Là, il dit, ah, t'es tout né entier dans le péché, puis tu nous enseignes. C'est la grâce de Dieu qu'il sortait de la religion, puis qu'il rentrait dans une vraie relation avec le Messie, parce que tout de suite après, Jésus le rencontre. Puis là, il demande, c'est qui t'a fait ça? Puis, ah, il sait pas trop. Il est encore tout mêlé, pauvre petit, parce que lui, tu sais, il a été guéri, mais là, il avait pas toutes mis les pièces du puzzle ensemble. Mais Jésus, il dit, c'est moi qui te parle, OK? Il demande, c'est moi. Puis, ça, il y a trois mots, ça dit, il a cru, il a adoré, en tout cas, il s'est prosté. On voit vraiment, il est tombé à ses pieds, puis il l'a adoré pour qui il est? Dieu. Ah, la grandeur de la miséricorde de Dieu. On voit ça dans tous ces exemples-là. Mais évidemment, on sait, hein, la plus grande démonstration de la miséricorde de Dieu, de l'initiative divine dans la miséricorde, c'est la croix. Lorsque nous étions encore pécheurs, pas quand on méritait, pas quand... En fait, la Bible nous dit que même le temps de l'histoire qui était choisi, c'était sous ce règne des Romains, puis à ce temps avec le leadership d'Israël, c'était tout prévu. Dieu avait dans son plan parfait le timing et tout. Jésus est venu puis opérer cette grande délivrance de sa propre initiative. Et j'aime le verset 21. Vous êtes ici dans Genèse et ça dit, il dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vous savez, Dieu était vraiment déterminé. Ben, on regarde, c'est... Une fois, j'ai eu cette impression-là en lisant, mais on dirait que Lot se débat contre sa propre délivrance. Et là, ben, il tarde, premièrement. Puis là, après ça, quand c'est le temps de partir, ah, ben là, je peux-tu aller là? Puis, tu sais, il négocie sa délivrance, là, c'est comme... Mais moi, je vois la miséricorde de Dieu qui le poursuit. Il le poursuit. Puis, vous savez quoi? C'est ça, le cœur de miséricorde. Il poursuit l'incrédule, le rebelle, l'obstiné. Savez-vous que ça nous donne de l'espérance pour nos vies, ça? Ça nous donne aussi de l'espérance pour ceux à qui on témoigne. Dit, ah, ça là il n'est pas sauvable. Ah non, c'est le meilleur candidat pour sauver. Dieu aime ça, sauver des Pauls puis des gens de main qui sont rebelles. Puis on dit, ah, il n'y a rien à faire avec eux autres. Ah, justement, Dieu est capable de faire des grandes choses. Il aime montrer la grandeur de sa miséricorde avec des personnes de même. Il y a un cantique que j'aime tellement, c'est un de mes préférés, je pense, des Hamilton. Je vais vous dire, là, je vais vous chanter, je vais vous beugler le refrain de la version originale. Puis ensuite, je vais vous donner celle-là traduite. He pursues when I sin, though I fled from him, he's the shepherd of my soul. Quand je pêche, quand je fuis, il me poursuit, il est le berger de mon âme. Ça, c'est notre Dieu. Même quand que nous, on ne cherche pas, même quand on part de l'eau, il a fait ça avec Jonas, n'est-ce pas? Dieu courait après Jonas, dans sa miséricorde, pour Jonas et pour Ninive. Wow! Ça, c'est la démonstration de la grandeur de la miséricorde de Dieu. Moi, je trouve du réconfort, de la sécurité là-dedans, à croire ça que Dieu... Puis le fait de savoir que c'est l'initiative de Dieu, c'est encore plus sécurisant. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi, même si... Je suis un peu comme là, puis je me débat comme Jonas, je pars de l'autre bord. C'est résolu dans le cœur de Dieu de faire miséricorde à ses enfants. Wow! Ça, c'est sécurisant. Maintenant, verset 16. Deuxième point, deuxième caractéristique fondamentale de la grandeur de la miséricorde de Dieu. Verset 16, je viens d'y référer. Et comme il tardait, les hommes, ici, les hommes, c'est des anges sous forme humaine, là, le saisir par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. La deuxième vérité, le deuxième enseignement que je veux qu'on regarde, la deuxième caractéristique de la miséricorde de Dieu, non seulement c'est une initiative divine, mais la miséricorde, c'est fondamentalement sortir de sa condition misérable. C'est ça la miséricorde, c'est être délivré, c'est une délivrance la miséricorde, ok? Le pire dans la situation de Lot, c'était pas tant, puis ok, c'était déjà un problème qu'il soit à Sodome et Gomorre, là, mais c'était pas ça le pire. Le pire, on le voit ici, il tardait. Son cœur était dans Sodome et Gomorre. C'était ça le pire de cette situation. C'était pas juste d'être physiquement là, puis ça nous dit qu'il tourmentait journellement son âme avec ce qu'il entendait puis voyait. Ok, ça, je veux dire, c'était déjà assez mal de même. Mais en plus, il a fallu que Dieu insiste pour le sortir. Parce qu'il tardait. Et ça, je crois, c'est la condition la plus misérable de Lot et de sa famille. Il était pris au piège spirituel. Et je crois, vous savez où c'est quoi le piège? Il y avait du confort, du luxe, du plaisir. Il était installé, là, à Sodome et Gomorre. On dit, ah, c'était donc méchant. Oui, mais il y avait... C'est vraiment comme notre société de nos jours. C'est vraiment pareil. On a du confort, du luxe. Mais il y a toute cette perversion, cette méchanceté. Lot était dans un environnement comme ça. Donc, il avait trouvé son confort, même si ça l'attristait son esprit juste. Il y avait l'autre côté du confort, puis tout ça. Parce que ça dit, hein, c'était arrosé par l'Éternel. C'était une ville prospère, autrement dit. Il était pris dans le piège de la prospérité. Oh, mes amis. Jésus n'a-t-il pas mis en garde? Prenez donc garde que vos cœurs ne s'appesantissent, ne s'alourdissent par les soucis du manger et du boire. Et qu'on puisse arriver au point où est-ce que on est tellement attaché à ce monde qu'on se détache d'en haut. Et savez-vous quoi? Dieu, avec ce qu'on vit en ce moment, c'est sa miséricorde qui nous délivre de ça. Parce qu'on tarde. On est comme Lot. On tarde, nous autres aussi. Dieu dit, hey, détache-toi de ce monde-ci. Il n'y a rien de bon dans ce monde-ci pour nous donner la vraie vie, la vraie paix, tout ce qui est vrai. C'est tout du temporaire. Puis je ne dis pas que c'est totalement faux. Je veux dire, Dieu, dans sa grâce, nous, tu sais, on a de la liberté, on respire de l'air frais, puis on mange de la nourriture. C'est toute la bonté de Dieu. Puis je ne dis pas que ça, c'est mauvais. Mais... L'épanouissement, la vraie joie, la vraie paix, c'est pas de ça que ça vient. Parce qu'il y a des gens qui ont rien de ça puis sont plus heureux que nous autres. Parce qu'ils sont attachés aux choses d'en haut. Et donc, de la même façon que Dieu ici délivrait son enfant de sa condition misérable, Dieu est en train de faire ça. Est-ce qu'on résiste nous aussi? Est-ce qu'on tarde? Attention de ne pas tomber. Vous savez, en ce moment, notre société est clairement, là, puis d'une façon, je pense, sans précédent, sur le jugement de Romains 1. On ne va pas prendre le temps de tout expliquer, mais Romains 1, dans le fond, c'est dans une coquille de noix, là, OK? Romains 1, c'est Dieu qui dit, vous voulez rien savoir de moi, vous me rejetez, vous vous laissez à toutes les pensées, je vous laisse aller à votre folie, puis vous allez vous autodétruire de même. C'est ça, Romains 1. C'est le jugement de Dieu qui nous laisse aller à nous-mêmes, à notre folie, à notre autodestruction, parce que Dieu, dans sa bonté, est capable de freiner ça. Dieu a donné une conscience, il a donné la famille, il a donné des institutions, l'Église, le gouvernement. Dieu a donné ça, mais là, Dieu est en train d'enlever ces restrictions-là, puis c'est... Ça fait que c'est le jugement de l'égarement, de l'endurcissement augmente. OK? On est en train de vivre ça en ce moment. Est-ce que, je veux dire, regardez, si on étudie l'histoire, les sociétés romaines puis grecques, je veux dire, ces gens-là, puis même ici, là, Sodome et Gomorre, vivaient pour le plaisir, l'égocentrisme, le matérialisme, la rébellion aux autorités puis tout ça. Mais je sais pas si on a atteint les sommets qu'on atteint en ce moment. Puis que ça soit avant, on va dire, OK, les Grecs étaient de même, puis bon. Mais là, c'est incroyable. C'est une échelle planétaire. C'est incroyable à quel point c'est rendu fort. Ces choses, ces attitudes, ces désirs, ces aspirations aux choses d'ici-bas, à ce que moi, je, me, moi, mon plaisir, aimant le plaisir plus que Dieu. Toutes ces choses-là n'ont aucune place dans la vie d'un enfant de Dieu. En fait, la Bible dit que ça devrait même pas être nommé parmi nous, ces choses-là. Je vais faire une application ici. Regardez verset 17. 17 et 26. « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » OK? L'instruction est claire. OK? Tout le monde a entendu ça. Regardez verset 26. « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue. » Puis c'était pas juste un petit regard vite de même, « Oh, qu'est-ce qui arrive? » Non, non. Parce que ici le jugement est tombé, puis il avait dit, « Regarde pas, puis arrête pas. » Je pense que c'est un long regard de se retourner, puis de contempler. Puis c'est quoi? C'était le regard de la nostalgie. C'était le regard de, « Ah, oh, ça va me manquer, toutes ces choses-là. » Je veux me parquer là un petit peu. Là. Le parking n'est pas plein, fait que je vais me parquer. La prochaine fois, vous aimerez en plus grand nombre. Parce que quand le parking n'est pas plein, je me parque. Mais, écoutez, là. On est en train de perdre, on a perdu beaucoup de liberté, de privilèges, de confort. Okay? C'est un fait, là. N'est-ce pas? La société n'est plus comme avant, là. Puis des choses qu'on prenait pour acquis avant, on en parle de ces choses-là. Okay? Puis je pense que c'est même pas fini. OK? Puis je veux dire, OK, c'est un constat. Même notre vie d'église, peut-être ça, là, tu sais, comme avant, ouais, là, on est béni, on peut faire comme avant, mais c'est pas garanti comment ça peut durer, OK? Je vais développer ça plus dans mon prochain message, mais je veux juste amener ce point-ci par rapport à ça. Est-ce qu'on est nostalgique par rapport à ça au point que ça nous arrête puis qu'on a les regards fixés en arrière? C'est ça qui est arrivé à la femme de Lot. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ayant les regards en avant. Et mes amis, Seigneur m'a parlé énormément avec ça, pas plus tard qu'hier. Puis pour ça, c'était pas dans mon message originellement, mais je veux vous partager ça. Comme je vous ai dit, je vais vous donner plus de détails dans mon prochain message, mais... Vous savez, il y a quelque chose qui est sorti avec toute cette crise-là, puis ça sort de plus en plus, on le voit avec les églises en Californie, puis tout ça... Il y a besoin de se tenir pour Jésus-Christ. Hein, ça dit qu'on est dans une guerre spirituelle et qu'on doit se tenir. Amen. Il faut qu'on garde les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi. On ne veut pas renier la foi pour laquelle ceux qui nous ont précédés, certains sont morts. Et ça, c'est trop précieux. Comment il dit ça, Jude, dans votre précieuse foi? Comment ça dit? En tout cas. Hein? Oui, votre précieuse et sainte foi, en tout cas, tu sais, que combattiez pour la foi transmise pour tous les saints. Là, vu que je l'ai sortie, je ne vais pas dormir comme il faut, je ne la trouve pas. Je désirais, bien aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise. Non, c'est pas celle-là, en tout cas. Votre très sainte foi, mais en tout cas, sainte foi. Depuis que c'est défusionné, on n'appelle plus ça Sainte-Foy. OK. Tout le Québec ont compris. Donc, il y a ce besoin-là, OK, de se tenir et tout ça. Mais, il y a un piège là-dedans. Il y a le piège de la nostalgie qui peut se cacher là-dedans. Je vous explique. C'est subtil, c'est pernicieux. Puis l'idée, ça consiste à tellement s'attacher à ce qu'on a perdu qu'on se met à se battre pour ça et non pas pour Christ. Puis il y a même un esprit de rébellion qui peut s'attacher à ça. Puis ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Ben, je vais vous faire juste un topo là, de ce que j'imagine ce qui arrive, parce qu'on voit la société, comment les choses se développent, mais on voit de plus en plus deux camps qui montent. Le camp des rebelles ouverts qui ne veulent rien savoir, puis même dans les gouvernements, de la corruption, puis vraiment les œuvres des ténèbres, là, ténèbres, là, OK? Puis on voit de l'autre côté la loi et l'ordre, puis on voit des gens, puis ils parlent d'éveil, puis, OK, de lumière. Mais vous savez quoi? Les deux, c'est le monde. Puis ceux qui parlent de ça, c'est tout sans Christ. Puis l'idée, c'est qu'on voit les deux qui montent comme ça. Puis là, la société se divise comme ça là-dessus. Mais les deux, leur espérance, leur but, c'est tout ici-bas. Bon, eux autres, c'est tout pour le pouvoir des œuvres, des ténèbres. T'sais. Eux autres, c'est pour amener une délivrance. Puis tout ça. Puis il y a plein de choses de ce groupe-là, il y a plein de choses qui sont bonnes. Je veux dire, qui est pour l'exploitation, puis les crimes, puis la méchanceté? Tu sais, la loi et l'ordre, ça vient de la Bible, OK? Dieu est un Dieu d'ordre, puis c'est lui qui a instauré les gouvernements pour les lois, puis tout ça. Mais si c'est sans Christ, si le but, c'est pas Christ, c'est pas le ciel, l'évangile, c'est vain. C'est une fausse lumière, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Puis voilà, mon scénario de la fin des temps, comment je peux comprendre en ce moment, puis je suis pas inspiré, là, OK? Mais c'est que ce côté-là de ténèbres va être vaincu par ce côté-là, tu sais. Ah, là, on va mettre la loi, là, on va exposer, ils vont être amenés en cours, puis tout ça, tu sais. Mais finalement, la grande tromperie, c'est que ceux-là sont tout aussi méchants, tout aussi sans Christ que les autres. Puis c'est comme ça que l'Antéchrist, je pense qu'il va, il va embarquer de ce côté-là comme le gars de la situation qui vient faire le ménage. Parce que qui veut que les villes soient détruites, puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que les autres, bien, évidemment, on a besoin de ce bord-là. C'est comme si tout dirige vers ça. Tu sais, les gens disent, ben non, hein, on veut pas être détruits, puis on veut pas que nos enfants aient dans la rue, puis qu'ils aient pas de se faire tuer, puis ainsi de suite, puis des gens sataniques, puis toute l'équipe, puis hein, on veut ce côté-là, mais ce côté-là, c'est ça le pire. C'est pas de Dieu, c'est de l'antéchrist. Puis c'est ça l'idée, l'antéchrist, ça va être un homme de paix, un homme de... OK? Puis, voici ce que je veux amener par rapport à ça. C'est pas notre combat. C'est là-dessus, le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus. D'une façon, on se tient pour la justice, puis par exemple, on vote pour ceux qui se tiennent pour les valeurs bibliques et tout ça, mais c'est pas là que notre espérance... On est dans Sodome et Gomorre, il n'y a pas de délivrance dans Sodome et Gomorre. Faut sortir. Sortez du camp, puis je veux dire... Puis Jésus, son royaume n'est pas de ce monde. Comprenez-vous ce que je vous communique? Donc la nostalgie, puis tout ça... Autrement dit, c'est ce qu'on est en train de tout perdre, ben, comme disait Martin Luther, puis il dit, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. La victoire nous appartient. Puis il disait pas juste ça pour faire un beau poème, une chanson, c'était ce qu'ils vivaient, là. Ils ont fait enlever leurs biens, puis tout ça, puis il y avait de la persécution du temps de Luther, puis il a écrit ça. C'est un rapport avec notre Dieu, là, c'est à ça que je réfère, non? Donc, mes amis, gardons les yeux sur la rémunération. Gardons les yeux. La semaine passée, j'ai parlé de l'Évangile. C'est ça, la délivrance de ce monde. C'est quoi, j'ai dit la semaine passée, vous rappelez-vous? Dieu, c'est comment la solution qu'il y a pour le mal dans le monde? C'est quoi qu'il a prévu? Une, c'est l'Évangile. C'est la croix. C'est pas tel gouvernement. Puis on comprend, il faut nuancer ce que je vous ai dit. Là. T'sais, si on avait des élections, si c'était nous qui avions des élections, je veux dire, en tant que citoyen, on peut voter. Mais c'est pas là qu'est notre espérance. Le royaume de Dieu, c'est ça qui amène la vraie délivrance. L'Évangile, c'est ça qui fait vraiment la différence dans la vie des gens. OK? Donc, c'était ma petite parenthèse. Juste pour dire un dernier mot là-dessus. Pour prendre une autre image. Elle regardait vers les trésors de Sodome et Gomorre. La Bible nous dit que Moïse a refusé les trésors d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération, sur les richesses de Christ. C'est ça que je vais amener comme point, OK? C'est-à-dire, la miséricorde de Dieu, c'est qu'il nous délivre de ce piège du matérialisme de ici-bas. Il n'y a pas de salut ici-bas. Sodome et Gomorre est voué à la destruction. C'est le jugement, faut juste... Puis Dieu veut nous sortir de ça. Je l'ai dit, une image vaut mille mots. C'est ce qu'on vit en ce moment. Dieu nous sort de Sodome et Gomorre. Il nous sort le cœur pour qu'on vive pour les choses célestes, pour qu'on vive à la lumière de l'éternité. OK? Maintenant, le dernier point. Troisième caractéristique de la grande miséricorde de Dieu. Non seulement c'est l'initiative divine, non seulement la miséricorde, c'est une délivrance de notre condition misérable, mais la miséricorde agit en réponse à la prière. Regardez au verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint de qui? D'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Là, je dirais qu'il y a un certain mystère ici. J'ai dit que la miséricorde, c'est l'initiative divine, mais c'est en réponse aux prières. Elle dit, ouais, mais en prière, c'est pas moi qui va initier les choses. Non, si tu pries, c'est encore de prier, c'est parce que Dieu fait un œuvre. Tu sais, il y a quelque chose où tu peux pas tout comprendre là-dedans, là. Mais c'est pas grave. Il faut juste qu'on prie, puis qu'on se tourne vers Dieu. On n'a pas besoin de tout comprendre. Il faut juste qu'on croit. Dieu délivre, OK? Puis en réponse à la prière. C'est ça mon point. Et notez, hein, je vous l'ai dit quand on lisait, Dieu se souvint d'Abraham, pas de Lot. En fait, il s'en est souvenu de Lot, là, parce qu'il l'a délivré. Mais ça dit ici, à la fin du récit, c'est dit, il se souvint d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est Abraham qui a eu compassion de Lot. C'est lui qui a intercédé, hein, c'est dans le chapitre précédent. Dans le chapitre 18, on le voit qui intercède, il y a 50 justes, puis il descend jusqu'à 10, puis, OK? C'est de ça que Dieu s'est souvenu, de la prière d'Abraham en faveur de son neveu. Parce que quand Abraham priait de même, là, il pensait à son neveu, évidemment, puis à sa famille. Lorsque Dieu touche nos cœurs pour être ému de compassion, comme Jésus face aux foules dans Matthieu 9, 36, c'est parce qu'il désire étendre sa miséricorde. Si on a un fardeau, c'est parce que Dieu... Ça, vous comprenez. Quand on prie, là, puis... Hein, c'est parce que Dieu est... On dit en anglais, he's on to something. Il y a quelque chose qui est en train de préparer. C'est pas comme, là, j'ai ça encore, puis... Non, parce que Dieu agit. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Si on a encore de prier, prions, intercédons, parce que Dieu veut opérer une délivrance. C'est comme ça que ça marche. Dieu délivre en réponse à la prière. Il serait pas obligé d'agir demain. Il n'y a pas besoin de nous autres. Puis il pourrait que personne prie, pourrait opérer toutes les délivrances qu'il veut. Mais dans son plan, ça je vous dis, là, c'est dur à tout comprendre ça, mais Dieu est souverain, puis bon, il agit dans sa providence et tout ça. La prière, ça fait partie de l'exercice de la miséricorde de Dieu. Ça dit ici, il a opéré cette délivrance-là parce qu'il s'est souvenu d'Abraham, il s'est souvenu de sa prière. Puis en passant à l'intercession, là, c'est pas juste pour... la personne pour qui nous prions. Tu sais, Dieu nous touche le cœur pour qu'on prie pour quelqu'un. C'est même bon pour nous qui prions. Parce que quoi? On ne sait même pas comment prier. La Bible dit, hein? On ne sait pas comment prier. Puis dans nos faiblesses, Dieu est même miséricordieux envers nous. On est là, puis hein, mais ça, tu sais, on peut-tu se vanter de notre vie de prière? On peut-tu se vanter de notre vie de prière comme lui? Non, mais Dieu est miséricordieux, puis il peut nous délivrer de notre apathie, de notre froideur. Hé, la prière, là, c'est le souffle de la vie chrétienne, c'est la joie de la vie chrétienne, c'est la paix de la vie chrétienne. Que Dieu nous délivre de voir ça comme un fardeau, comme une obligation, comme... C'est pas ça la prière. La prière, c'est la communion avec Dieu, c'est l'expression de notre amour, de notre confiance en lui. Donc de A à Z, c'est toute la miséricorde de Dieu. Celui qui prie, celui pour qui on prie, ceux, celles. Dieu miséricordieux peut nous sortir de notre égocentrisme qui nous empêche à prier, à juste voir notre petit nombril puis à se plaindre sur notre cas. Nous sortir de ça pour qu'on voit les autres autour de nous aussi. Personnellement, les moments les plus significatifs et productifs de ma vie de prière, c'était là quand j'étais bloqué, apathique. Tu sais, j'ai déjà peut-être vu ça, vécu ça, là. Et en, ça marche pas, là. Tu essaies de prier, puis on dirait que tu parles au plafond, là. C'est juste à moi que c'est déjà arrivé. Tout le monde me regarde un peu de même. Hein, le pasteur, ben oui. Puis là, Saint-Esprit, il me rappelle des personnes, des situations, des choses, avec lesquelles j'ai pas encore dealé. Saint-Esprit dit, c'est ça qui bloque. Puis il me le montre. Quelque chose dans mon cœur, quelque chose dans ma vie, dans mes relations. Aussitôt que j'arrive avec ça dans la prière à Dieu, que je le confesse, la délivrance, puis ça a été là après ça, mes moments les plus bénis, les plus libres, les plus extraordinaire de ma vie de prière. Pourquoi? Parce que Dieu nous rencontre là où on est misérable, puis il nous délivre. C'est ça le bon message de la miséricorde. C'est pas pour ceux qui l'ont tout, puis tout ça. Non, pour les misérables, la miséricorde. Puis on est misérable bien souvent, mes amis, peut-être plus souvent même qu'on voudrait l'admettre. Mais on a le Dieu de toute miséricorde, de toute grâce, qui délivre en réponse à la prière. Des fois, tu te sens misérable, tu vois. Juste dis au secours. Juste essaie de même dire même pas un mot, juste lever les yeux au ciel. Dieu, tu me vois. Dieu, c'est comme ça qu'il marche. Il délivre comme ça en réponse à la prière, au cri du cœur. C'est ça le plan de Dieu. C'est comme ça que ça marche avec lui. Dieu répond toujours à la prière, au cri de ses enfants qui invoquent sa miséricorde. J'ai glissé un mot la semaine passée sur quelque chose avec lequel je veux terminer ce matin. L'influence spirituelle de la prière. Vous savez que ici on voit Lot avec toute sa famille, puis on voit qu'on sait qu'il était dans une position d'influence à Sodome et Gomorrhe parce qu'il était à la porte de la ville. Il était dans le conseil municipal, si vous voulez, là. Liberté un peu, là. Il appelait peut-être pas ça de même à l'époque, là, mais c'est ça l'idée, là. Il était en politique, OK? D'une façon. Mais il n'a pas influencé personne dans la ville. Il n'a pas influencé. Vous vous rappelez, j'avais dit ça? Sa famille. Ici, ça dit les deux plus jeunes. Les deux plus vieux qui étaient mariés, ils ont tombé sous le jugement. Il n'a pas influencé. Il n'a pas influencé beaucoup, en tout cas. Il n'a pas influencé grand monde. Abraham, sans jamais avoir mis les pieds là, sans jamais avoir dit quelque chose et essayé de changer les avis du monde, il a changé toute l'histoire qu'on vient de voir là avec la prière. L'influence spirituelle d'Abraham était beaucoup plus grande. En fait, une était inexistante, l'autre a sauvé des vies, a transformé la situation par la prière. C'est avec ça que je veux terminer ce matin. C'est le moyen par lequel je voulais avoir de l'influence spirituelle pour que Dieu initie des choses, pour que on vit, puis ces gens autour de nous vivent la délivrance de leurs conditions misérables. La réponse, c'est la prière, mes amis. C'est la prière. Donc, on s'apprête à prier. On termine avec un temps de prière. Et mon appel ce matin à la lumière de ça, c'est le suivant. Deux questions. D'abord, est-ce qu'on veut vraiment faire une différence, avoir une influence dans le domaine spirituel puis dans le domaine physique à travers la prière? Est-ce qu'on veut vraiment? Parce que ma deuxième question, ben, si on veut vraiment, pourquoi on prie si peu? Peut-être qu'on veut pas tant que ça. Hey, mais si on veut vraiment, commençons maintenant. Vous savez quoi? Vous dites, ah, mon ami, j'ai de la misère, je suis misérable. Tant mieux. T'es le parfait candidat, exactement comme Lot. T'es pour être le candidat pour la miséricorde de Dieu, là. La qualification, c'est d'être misérable. Donc, bienvenue dans le club. Je pense qu'on est pas mal ici qu'on se qualifie, n'est-ce pas? C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. On n'a pas besoin de l'impressionner. C'est lui qu'il faut qu'il nous impressionne. Wow, Dieu, comme un Dieu comme toi. Tu fais ça? Oui, exactement. Ça, c'est Dieu. Essayez pas d'impressionner Dieu. Laissez-vous être impressionné par Dieu. C'est ça la prière. Dire, wow, Dieu, je peux crier à toi. Mais j'ai même pas rien à dire. Je fais juste lever les yeux vers toi. Puis t'es déjà disposé? Déjà, t'es prêt à délivrer? Oui. C'est comme ça que Dieu est. D'après ce qu'on sait du récit qu'on a vu là, on n'a pas vraiment de récit de prière, de cri à Dieu de la part de l'autre. En fait, c'est l'inverse. Il tardait. La femme a servirait puis tout ça. Donc, la qualification, il l'avait. Il était bien misérable. Mais il y avait quelqu'un qui intercédait pour lui. Donc, ce matin, allons à celui qui, non seulement qui veut, mais qui peut nous délivrer de tout piège, qui peut nous délivrer de nous-mêmes, qui peut nous délivrer de n'importe quelle condition misérable dont on a pu se mettre nous-mêmes par des mauvais choix, comme Lot l'a fait. Approchons-nous, comme la Bible dit. empressons-nous de nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. C'est un verset sur la miséricorde de Dieu, ça. Approchons-nous pour être secourus. Secourus, c'est la délivrance de Dieu. Si vous êtes ici et vous n'avez pas été délivré de la pénalité de votre péché, que la colère de Dieu demeure sur vous parce que vous essayez d'impressionner Dieu avec votre justice, invoquez la miséricorde de Dieu. Si vous êtes ici, enfant à Dieu, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme sauveur, c'est de la miséricorde de Dieu que vous avez besoin. Soyez impressionnés par la croix, par le fait que tout est accompli, que vous n'avez rien à rajouter, qu'il faut accepter le plein pardon des péchés qui est offert par Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Donc, peu importe votre situation à matin, on veut s'en remettre à la miséricorde de Dieu. Seigneur, comme on te remercie ce matin que tu es le Dieu miséricordieux qui délivre de toute condition misérable. Merci que tu fais ça de ta propre initiative. Ah, même Seigneur, quand on ne te cherche pas, même quand on est refroidi, même quand on s'est éloigné, comme qu'on est comme un Lot qui tarde, comme sa femme qui regarde en arrière. Seigneur, on peut toujours être délivré simplement lorsqu'on se tourne vers toi. C'est ce qu'on veut faire ce matin, Seigneur. On bénit ton grand nom par lequel on te prie maintenant, le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce nom qui sauve, qui délivre de tout péché. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever.